France Inter.
Beaucoup de vétos, malheureusement, on pensait en finir. Le problème avec notre profession à nous, c'est le même que pour les policiers. J'ai une amie gendarme. Eux, c'est l'accès immédiat à l'arme pour se tuer. Bah, les vétos, c'est la même chose. Nous, c'est pas avec une arme, c'est avec nos produits euthanasiants. Tellement simple d'accès, c'est dans nos armoires. C'est facile de basculer et de céder.
C'est un métier qui fait rêver les enfants. Vétérinaire, soigner les animaux, s'occuper d'eux, la profession bénéficie d'une aura incontestable. Mais la réalité est très différente de nos rêves d'enfants. C'est une profession où il y a 3 à 4 fois plus de risques de suicide que dans la population générale, 2 fois plus que les autres professions de santé, pourtant connues pour le mal-être qui les ronge. Ces chiffres, édifiants, proviennent d'une étude menée par un professeur en psychologie pour le compte de l'association Véto Entraide, ainsi que pour le Conseil de l'Ordre de la profession.
Le métier de vétérinaire a encore beaucoup de valeurs masculines, alors qu'il est exercé majoritairement par des femmes maintenant. Et donc, on est fort, on tient le coup. Et typiquement, 90% des appels commencent par « Je suis désolée, vous avez certainement affaire à des cas beaucoup plus graves que moi ». Mais là, tout de suite, ça ne va pas du tout.
Aujourd'hui, le métier ne cache plus cet épuisement professionnel. Des burn-out liés à la surcharge de travail, à la gestion des gardes, au travail de nuit, au territoire de plus en plus vaste en zone rurale et surtout à l'extrême disponibilité horaire qui prévaut dans le milieu.
En général, on fait un week-end de garde sur quatre et une nuit de garde sur deux pendant la semaine. On a toujours une chose qu'on n'a pas résolue, toujours. Donc oui, moi je pense que mon métier vit avec moi et je vis avec lui.
Le rapport au client est un autre élément qui pèse dans le quotidien des vétérinaires. Selon le Conseil national de l'Ordre, le nombre d'agressions contre des professionnels a explosé. Entre 2018 et 2021, plus 75% d'injures, de menaces et parfois de coups, comme ce fut le cas dans cette clinique de Gradignan, près de Bordeaux, où commence le reportage de Yann Gallic avec Lucien Lefebvre à la prise de son. Vétérinaire, le grand malaise d'un métier qui fait rêver.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
C'est la clinique vétérinaire des Églantines.
Monsieur. Je vous laisse patienter du côté des chats, le docteur va vous recevoir.
D'accord, merci.
Faites un tout petit peu en avance.
Oui, je sais, oui.
D'accord, ça marche.
Merci. Bonjour. On a rendez-vous avec,
Corinne
Bisbard et puis ouais. Nadège Bride aussi.
Oui, alors Corinne Bisbard termine sa consultation.
Oui.
Elle appelle une cliente, je crois, et je vais lui dire.
Merci.
La consultation, l'injection et les médicaments, du coup, ça fait 74,90€.
Oui, par carte, s'il vous plaît.
Corinne Bisbard, vous avez été agressée physiquement par un client. C'était en 2017. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé?
Donc, en 2017, un client est arrivé avec un petit chien qui était malade, sans rendez-vous. Une de nos auxiliaires l'a accueilli. Lui a demandé s'il avait rendez-vous, ce qu'il a très très mal pris d'emblée. Il a commencé à devenir agressif. Ça, bon, on a l'habitude. Je suis allée lui expliquer calmement qu'on allait le recevoir, mais qu'il allait devoir attendre. Il a commencé à s'approcher de moi. C'est un petit peu monté dans les tours. Et très clairement, je lui ai dit, ben écoutez, qui est votre vétérinaire traitant? Il m'a donné le nom du vétérinaire traitant, qui est un confrère que je connais bien. Je lui ai dit, ben, puisque c'est comme ça, vous allez prendre votre chien, vous allez aller le consulter parce qu'il n'est pas possible qu'on vous reçoive en se faisant agresser comme ça. J'ai cru que l'affaire était terminée, sauf que cette personne est revenue. C'était 20h30, c'était un soir où je terminais un petit peu tard, où on avait pris des clients, des urgences. J'ai entendu à nouveau des cris dans la salle d'attente. Cet homme est revenu avec son chien, me l'a posé sur la banque d'accueil. Et quand je suis arrivée, il m'a attrapé par les épaules, il m'a secoué et il m'a dit « Maintenant, mon chien, tu me le prends, tu me le soignes, je te le laisse, je reviens demain et je te préviens, s'il est mort, je reviens, je mets le feu et je casse tout. » Et il est parti. On était tous extrêmement choqués. J'ai soigné son chien, il me l'a laissé. Je l'ai hospitalisé, je l'ai soigné et je suis partie à la police où j'ai déposé plainte. Le lendemain, la compagne de la personne qui m'avait agressée était venue récupérer le chien. Ils n'ont jamais réglé la facture. Donc ça, c'est aussi une incivilité, hein. Et puis la plainte a prospéré et il est passé en comparution. Il a été condamné avec sursis. En cas de récidive, il devait y avoir quand même une bonne quinzaine de jours avec sursis.
Corinne Bisbar, vous êtes aussi responsable de la commission sociale au sein du Conseil de l'Ordre et vous avez mis en place un observatoire des incivilités et des agressions contre les vétérinaires. C'est donc bien qu'il y a un problème.
On a créé l'Observatoire des agressions et incivilités, d'abord suite au décès d'un confrère. Ça s'appelle l'Observatoire Ribens, parce que le docteur Ribens, qui était vétérinaire en région parisienne, a été agressé par un client indéséquilibré, hein, c'est-à-dire que c'était pas, il le connaissait même pas. Et ce client a considéré que le chien de sa mère était possédé par le diable, a débarqué chez le vétérinaire et en fait l'a assassiné à coups de couteau. Et on a créé, quelques années après, l'Observatoire, en 2005. Ce que l'on voulait, c'est avoir des statistiques sur les agressions et les incivilités qu'on a rajoutées derrière pour pouvoir faire bénéficier la profession vétérinaire du protocole de sécurité applicable aux médecins et aux professions de santé. Parce que les vétérinaires, ils dépendent du ministère de l'Agriculture et ils ne sont pas considérés comme des professions de santé, ils sont considérés comme des professions de service. Donc, il a fallu qu'on argumente pour qu'on soit rangé à côté des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, et bénéficier du protocole de sécurité qui, en fait, permet à la police d'intervenir plus vite, de mieux nous protéger, parce qu'il y a une multitude de vétérinaires qui prennent des gardes la nuit et qui sont extrêmement exposés. D'autant plus que les gardes, la plupart du temps, on les prend seuls et on reçoit les clients complètement seuls, hein, toutes les nuits. Très souvent, hein, mon entourage me dit « mais t'as pas peur toute seule la nuit dans ta clinique ?» Et en fait, ça m'a jamais effleurée. Mais des fois, je me dis « je suis inconsciente ». Oui, bien sûr qu'il peut y avoir des agressions pour voler la caisse, pour voler du matériel, pour voler des médicaments. Donc, ce que l'on voulait, c'était des statistiques pour pouvoir faire remonter au niveau des préfectures de police et de leur dire « ben voilà, les vétérinaires, ils sont victimes de tant d'agressions, il faut que vous les protégiez ». Et ça a marché parce que maintenant, on a droit au protocole sécurité.
Et on voit que les incivilités sont quand même en hausse, ou en tout cas que les vétérinaires déclarent aujourd'hui plus d'incivilités et d'agressions qu'il y a quelques années.
Ce que je constate, c'est qu'elles sont plus graves qu'il y a 5-6 ans. Il y a plus de menaces, il y a plus d'injures. Je vois de plus en plus des menaces de mort. Ce que j'ai noté aussi vis-à-vis des filles, c'est des menaces de viol que j'avais jamais vues il y a 2-3 ans. Et là, maintenant, c'est alors le tutoiement systématique. Et c'est toi, de toute façon, si tu fais pas ce que je te demande, je vais revenir et je vais te violer.
Allez, suivez-moi. On y va. Alors, je vous écoute, racontez-moi.
Alors, ma mère se plaint qu'il a des vomissements, il mange beaucoup d'herbe. Il crie de douleur depuis ce matin. En fait, il couine en se levant, en se déplaçant. Il aurait mal au derrière ou au niveau du ventre, d'après ma mère. Donc, comme c'est rare qu'il couine comme ça, dès qu'il se déplace ou il s'allonge, elle a décidé de vous appeler pour l'amener le plus possible.
Allez, on va t'examiner, Lolo. Salut, toi.
Assure-toi, merci.
Allez, viens, toi.
C'est un husky
Oui, c'est bien. Okay.
Il a quel âge?
2 ans à peu près, 2 ans, 2 ans et demi.
Et vous venez souvent chez le vétérinaire?
Oui.
Ouais.
Et il y a des problèmes, il est un peu sensible au niveau de tout ce qui est gastrique.
Mais c'est vrai.
Donc en fait, on lui donnait des morceaux d'eau de poulet avant parce que on pensait que c'était comme dans les dessins animés, etc. C'est le premier chien qu'on a. Et en fait, ça, enfin, faut éviter parce qu'il digère très mal.
C'est un coup.
C'est un budget. Alors après, on a découvert qu'ils font les assurances pour animaux, pour tout ce qui est chien, chat. Et alors c'est un petit coup quand même, mais au final, quand on regarde, c'est une très bonne chose.
Je fais le tour complet, hein, d'accord. Je vais vous demander juste de tenir un petit peu sa tête pour l'injection. Voilà, c'est bon. C'est bien, c'est fini. Allez. Descends. Allez, vas-y, retourne. Ça, non. Du coup, vous ferez attention, parce que là, comme il a mal au dos,
ouais.
Si jamais il veut regrimper sur le canapé, d'accord.
Nadège Bride, vous okay. travaillez comme vétérinaire salarié ici dans cette clinique depuis combien de temps?
Depuis 2 ans maintenant. Quand on veut être vétérinaire, on a un idéal. Être vétérinaire, donc avec tout ce que ça représente de positif, contact avec les animaux, soigner les animaux, sauver les animaux. Mais le côté pratico-pratique, c'est un peu une découverte au fur et à mesure du temps. On n'a peut-être pas tant d'incivilité en direct, mais beaucoup sur Internet.
Est-ce que le coût des soins vétérinaires peut être une source de tension, justement, avec les clients?
En fait, quand on est vétérinaire et qu'on présente une facture, on a toujours l'impression de s'excuser de présenter notre facture. Alors que les soins, ça a un coût. Ce que je trouve vraiment difficile pour nous, finalement, c'est qu'en médecine humaine, quand vous êtes hospitalisé, on ne vous présente pas la facture des soins. On vous dit juste, tout est pris en charge par la mutuelle, tout va bien. Et du coup, vous avez aucun ordre d'idée de combien ça coûte réellement. Et c'est vrai que quand on présente du coup une facture à une personne, ça paraît parfois astronomique, ce que je comprends, parce que en fait la personne n'avait vraiment pas du tout d'ordre d'idée de ce que pouvaient coûter les soins. Souvent, quand on a eu des phases d'agressivité ou des mots pas très sympathiques des propriétaires, souvent il y avait un problème d'argent en jeu. Et du coup, c'est pas très confortable parce que finalement, on aime beaucoup les animaux, mais faut quand même pouvoir vivre à côté. On vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Et on souffre un petit peu de l'image du vétérinaire qui s'en met plein les poches au détriment de la santé des animaux. Ça paraît très très injuste en fait, parce que c'est pas le cas.
Il y a aussi beaucoup de fatigue émotionnelle chez les vétérinaires qui absorbent beaucoup de choses, la souffrance des animaux d'une part, parfois la colère de leur maître ou de leur maîtresse. Finalement, vous êtes les réceptacles de beaucoup de choses.
Et oui, parce que, comme je le dis à mes stagiaires, en fait, quand vous voulez être vétérinaire, c'est pas juste pour les animaux, en fait, c'est faut aimer les gens aussi. Et donc, après, on a beau aimer beaucoup les gens, parfois c'est compliqué de recevoir la colère, la tristesse. Alors souvent, les gens agressifs, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Et en fait, je pense que c'est une profession qui gagnerait à avoir des cours de communication non violente, des choses comme ça, plutôt que tout est axé vraiment sur le technique dans notre profession. Donc le diagnostic, les examens complémentaires. Mais le côté humain, gestion de l'humain, finalement, c'est pas si développé que ça.
Ce qui pourrait expliquer une partie du mal-être de la profession aujourd'hui.
Une désillusion entre l'image magnifique de la profession et puis le concret, en fait. On pense qu'on va soigner que des animaux, mais en fait, les animaux, ils n'arrivent pas tout seuls avec leurs petites pattes. Ils arrivent avec des maîtres, l'émotion des maîtres. Et c'est important de savoir communiquer avec eux.
T'as été hyper sage, Antonia. Voilà. Bon, donc, donnez-moi des nouvelles demain.
D'accord.
Vous passez un petit coup de fil à l'accueil et les assistants.
On va voir s'il y a de l'amélioration.
C'est ça. Juste être sûr que ça va bien. D'accord.
D'accord.
Allez, mon petit chou.
Les injures, les agressions et parfois un manque de reconnaissance de certains clients peuvent expliquer le malaise qui touche aujourd'hui une partie de la profession. Cette souffrance au travail, il en a été question lors du congrès annuel des vétérinaires pour les animaux de compagnie qui se tenait pendant 3 jours à Marseille.
Pourquoi une telle enquête? De toute façon, de façon intuitive, on entendait parler d'un certain degré de burn-out, d'une certaine propension des vétérinaires à avoir des idéations suicidaires et à se suicider. Mais en fait, il y avait...
Nous y avons rencontré Delphine, 38 ans. Elle est vétérinaire depuis une douzaine d'années. Elle a fait toute sa carrière auprès des animaux de compagnie, d'abord comme salariée, avant de s'associer avec une amie pour ouvrir sa propre clinique en région lyonnaise. Une expérience douloureuse qui s'est terminée par un burn-out, car en plus de soigner les animaux et de gérer les clients, Delphine devait aussi s'occuper de toutes les tâches administratives.
J'avais 3 salariés, j'avais 2 assistantes et une vétérinaire salariée. En gros, j'avais tout en charge, donc toute l'intendance, c'était tout moi qui faisais, payer les factures, régler les conflits avec des clients... tout de A à Z, ce pour quoi on n'est pas formé en plus. Donc ça, c'est vraiment une difficulté aussi qu'on a, c'est qu'on fait un cursus de 5 ans à l'école vétérinaire. On a allez, 3 jours peut-être consacrés à ce qu'est la gestion, ce que c'est qu'un business plan, ce que c'est que... On nous parle, je crois, même pas de tout ce qui est gestion du personnel. Donc moi, je suis sortie de l'école en 2009. Ça, je pense que ça contribue beaucoup au fait qu'on fasse des burn-out, dans le sens où, à la fois, on ne sait pas gérer notre outil de travail et on ne sait pas non plus manager.
Et le burn-out, il arrive quand et est-ce qu'il est arrivé de manière violente pour vous ?
J'avais des périodes de haut et de bas depuis peut-être déjà un an et demi pour différentes raisons. Parfois, ça pouvait être des choses vraiment banales. Je dormais plus, je mangeais plus, je perdais du poids. Je passais mes dimanches à faire de la compta parce que j'avais pas le temps de la faire la semaine. J'étais obsédée par mon boulot, j'avais plus aucun hobby ou centre d'intérêt hormis mon métier. J'étais plus que vétérinaire en fait, j'étais plus rien d'autre. C'était, je survivais. Il suffit de pas grand chose en fait, il suffit que peut-être on ait fait une erreur médicale, qu'elle soit grave ou pas grave, pour que ça fasse plonger vraiment dans le désespoir et où on se sent seul. En plus, donc dans notre métier, on a quand même la particularité d'euthanasier des animaux, donc on a un rapport à la mort qui est très différent de la population générale. On a un accès aussi à des produits euthanasiants. C'est le petit truc qui fait que c'est facile de basculer et de céder.
Le suicide, vous y avez déjà pensé concrètement ?
Ah ben, j'ai pas envie de le raconter.
D'accord.
Mais sincèrement, c'est très répandu. Beaucoup de vétos, malheureusement, ont pensé en finir. Et le problème avec notre profession à nous, c'est le même que pour les policiers. J'ai une amie gendarme. Eux, c'est l'accès immédiat à l'arme pour se tuer. Bah, les vétos, c'est la même chose. Nous, c'est pas avec une arme, c'est avec nos produits euthanasiants. Voilà, c'est tellement simple d'accès. C'est dans nos armoires, à peine sécurisées, c'est à peine sous clé.
À un moment donné, vous alliez tellement mal que vous avez été obligé d'être hospitalisé.
Donc j'ai été hospitalisée pendant 3 semaines. C'était terrible, ça a mis des mois. J'ai mis peut-être 10 mois à récupérer. Et voilà, en tant que libérale, on n'a pas le droit à l'erreur en fait. On n'a pas le droit d'être malade. Suite à tout ça, donc on a pris la décision avec mon associé de vendre. On va dire que c'est là que j'ai commencé à souffler parce que je me suis projetée de nouveau dans une vie professionnelle qui me conviendrait mieux. J'ai décidé de changer de région, de redevenir salarié du coup, pour justement pouvoir récupérer.
Vous avez décidé de rester vétérinaire malgré tout ?
Vraiment, je ne me vois pas faire autre chose parce que j'aime mon métier. Alors il y a des moments où je l'ai détesté, vraiment, à cause de la lourdeur, des gardes, le travail de nuit, les horaires à rallonge, les exigences des gens. Mais au fond, j'aime mon métier, donc je ne me vois pas faire autre chose. J'ai plein de fois, j'ai hésité. Je me suis dit, allez, tu vas travailler dans un labo, tu vas travailler dans un bureau, tu seras plus tranquille, tu n'auras plus de clients à gérer. Mais quand même, à chaque fois, je sens que j'ai quand même envie de faire ça et je reviens à ça.
Un risque de suicide plus élevé que dans la population générale et un taux de suicide aussi plus élevé que dans les autres professions de santé. Le but, c'était d'avoir...
Nous avons rendez-vous sur le stand de Veto Entraide, créé en 2002 suite à une vague de suicides au sein de la profession. Cette association essaye aujourd'hui d'apporter des réponses au mal-être des vétérinaires.
Bonjour, je m'appelle Joëlle Thiesset. Je suis membre de l'association Veto Entraide, bénévole, et j'ai été présidente jusqu'au mois de novembre 2022. Je suis également vétérinaire praticienne en Savoie.
Quel genre d'appel vous recevez ? Quel genre de demande vous recevez ?
On va dire que les thématiques qui ressortent sont des appels de jeunes confrères et consoeurs qui sont en souffrance, soit par la quantité de travail, soit par un manque de confiance, la peur de l'erreur, ou alors beaucoup de difficultés relationnelles, que ça soit de l'employeur avec ses salariés, du salarié avec son employeur, avec les patients, des fois, un client qui a très mal réagi dans sa souffrance, un animal qui est décédé ou un animal qui a une problématique. Le profil, on va dire, majoritaire, c'est jeunes vétérinaires qui pratiquent souvent en canine et beaucoup pour des problèmes relationnels.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'appels de détresse ?
En fait, on n'a que ça, des appels de détresse. Parce que, comme je vous l'ai dit, le vétérinaire n'aime pas appeler à l'aide. Le métier de vétérinaire a encore beaucoup de valeurs masculines, alors qu'il est exercé majoritairement par des femmes maintenant. Et donc, on est fort, on tient le coup. Et typiquement, 90% des appels commencent par « Je suis désolée, vous avez certainement affaire à des cas beaucoup plus graves que moi. » Mais là, tout de suite, ça ne va pas du tout. Et en fait, on est obligé d'expliquer que il n'y a pas de cas plus grave ou moins grave. Ce qui compte, c'est qu'on a une personne qui est en souffrance. Et à partir du moment où la personne est en souffrance, on est là, on est disponible.
Est-ce que vous, dans votre entourage professionnel, vous connaissez des vétérinaires qui se sont suicidés ou contentés de se suicider ?
Oui. Malheureusement, j'ai un ami qui a réussi. C'est chaque fois une épreuve douloureuse, d'autant plus qu'il était pris en charge, qu'il était suivi, qu'il était médicalisé, et que malgré tout, il est passé à l'acte. Voilà.
Est-ce que la profession a peut-être trop attendu pour prendre conscience de ce mal-être, selon vous ?
Alors oui, c'est évident. Je veux dire, mes prédécesseurs, quand ils ont créé l'association, les premières années, se voyaient méprisés. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas vrai, c'est une minorité de faibles. Moi, j'ai eu la chance d'arriver à la présidence de l'association à un moment où celle-là était déjà reconnue au sein de la profession. Et oui, on a mis beaucoup trop de temps pour en arriver là. C'est le chemin des consciences qui doit se faire. C'est comme pour l'écologie, c'est comme pour de nombreuses problématiques. C'est un chemin.
Selon l'étude conduite pour le Conseil de l'Ordre, les vétérinaires en milieu rural souffrent moins d'épuisement professionnel que leurs collègues en milieu urbain. En revanche, les vétos ruraux doivent faire face à d'autres problèmes avec les déserts vétérinaires dans les campagnes. Yann Gallic et Georges Thau sont allés dans l'Eure au départ d'une tournée d'une vétérinaire dans les exploitations agricoles de son secteur.
France Inter, Interception.
Donc là, Emmanuel Voldoir, il est 8h du matin et vous commencez votre tournée.
Oui, voilà. Je commence ma petite journée de promenade, comme je dis parfois.
Et il vous arrive, j'imagine, d'être réveillé bien plus tôt en cas d'urgence ?
Oui, alors après, les urgences, c'est assez aléatoire. C'est en général jusqu'à 23h. Ensuite, les gens, ils vont souvent, enfin en tout cas, je parle des agriculteurs là, vont souvent faire un tour dans leur troupeau vers 1h ou 2h du matin. Maintenant, ils sont aussi équipés de caméras. Donc, ils se réveillent au milieu de la nuit, puis ils ont des caméras assez puissantes qui leur permettent de bien voir s'il y a des vaches en train de vêler, tout ça. Et on peut être appelé à 2h, et après, en général, ils y retournent à 5h. Donc, c'est les horaires auxquels ils nous appellent s'ils ont besoin.
Et là, je vois dans votre voiture que vous avez pas mal de matériel qui s'entasse sur les sièges arrière et dans le coffre.
Voilà, donc on a un petit hôpital de campagne, hein, je crois qu'on peut dire ça. On a aussi bien du matériel, des caisses à césarienne, des véleuses, enfin tout un tas, une planche pour rentrer des matrices, et puis après tout ce qui est matériel d'injection et de prise de sang. Et ensuite, on a aussi toute une pharmacie pour pouvoir intervenir directement avec des médicaments dont on a besoin en permanence dès qu'on va soigner un animal. On ne demande pas à l'éleveur de revenir à la clinique ou d'aller à la pharmacie chercher les traitements qu'on va devoir utiliser, parce que parfois on peut avoir des petits voies perfusées et il faut pouvoir le faire directement.
Vous faites beaucoup de route dans la journée ?
Ça dépend. Alors après, on a un secteur qui s'agrandit au fur et à mesure que nos collègues restreignent leur activité à une activité plutôt canine, si bien qu'après avoir démarré il y a, on va dire, presque une quinzaine d'années avec un secteur d'une demi-heure autour de notre village, là, on peut aller se promener à trois quarts d'heure, parfois presque une heure. Et surtout en garde, parce qu'on partage les gardes avec nos collègues les plus proches, mais qui sont quand même à une demi-heure. Donc on peut faire facilement parfois, alors uniquement le week-end, mais une heure, voire une heure et quart de route pour aller veiller une vache, oui. Ce qui est une problématique importante dans nos campagnes quand même, mais partout en France, hein, pas que chez nous.
Il y a de plus en plus de déserts vétérinaires de...
Ah oui, oui. Mon associé avait calculé, là, on a facilement en une quinzaine d'années, je crois, 7 cliniques qui ont arrêté de soigner des vaches. Donc on se retrouve un petit peu seul et on a des appels et des demandes qui sont très loin parfois et on ne peut pas tout faire, hein, c'est pas possible. Donc il y a des éleveurs qui arrêtent par manque de vétos. Les agriculteurs, faut pas oublier que c'est leur métier, leur exploitation, c'est leur gagne-pain. Donc quand ils sont en détresse parce qu'ils ont une épidémie dans leur troupeau, il faut aussi être là à la fois pour soigner l'animal mais pour ressourcer l'humain, quoi. C'est pas toujours évident, donc ça faut en prendre l'habitude avec l'expérience et puis ça fait partie de notre métier. Voilà, donc là on arrive. Alors là, il y a même 3 générations parce que les grands-parents étaient agriculteurs et le grand-père avec sa canne viendra sûrement nous dire bonjour parce qu'il va toujours faire son petit tour à pied le matin avec sa canne et il vient toujours nous saluer. Donc
là, ce sont des clients que vous connaissez depuis longtemps.
Oui. avec des belles vaches charolaises, avec leurs petits veaux.
On les voit là sur la gauche, les vaches.
Elles sont toujours curieuses. Étable. Soit elles ont été déjà nourries, mais je suis pas certaine. Elles attendent leur concentré en général. On va se déguiser déjà. Alors il fait moins 2, mais quand on fait des diagnostics de gestation, on a en général bien chaud, donc on va quitter des épaisseurs. Regardez comme elles sont curieuses.
Attends, on n'est pas en avance parce que...
La nuit a été courte.
Non, on vient de faire un vêlage.
Ah.
Et puis justement, c'était des jumeaux.
Ah. Vous avez pu démêler que ça a été
Il y en avait un qui était vêlé, ouais. Une seule, et l'autre était en.
Ah oui, il a fallu sortir le pivot par l'arrière.
On a une cape de temps. C'était des génisses.
Des génisses, c'est des vaches qui n'ont jamais vêlé en fait. Elles prennent le nom de vache quand elles ont fait leur premier veau. Et bien là, il y en a une qui a fait son veau. Parce que la plupart sont gestantes, quoi. Donc après, la maman qui a fait ce petit veau, elle va traverser la route pour aller dans l'autre bâtiment pour passer à la traite matin et soir.
Qu'est-ce que vous allez faire chez cet agriculteur
On va faire de la prophylaxie, c'est-à-dire des prises de sang, des prélèvements de sang pour rechercher certaines maladies qui sont des maladies réglementées et pour lesquelles il faut dépister, vérifier que la maladie est absente de l'exploitation. Si toutefois elle était présente, il faudrait l'éradiquer, quoi.
Ça vous est arrivé d'avoir affaire à une grosse maladie sur un troupeau et d'être...
Il y a très très longtemps, donc il y a 20 ans de ça, quand j'ai fait mon internat en rural, on a eu un troupeau qui a eu la vache folle. Donc j'ai vu une vache folle et abattage total du troupeau, oui.
Mais ça doit être assez dur, ça.
C'est traumatisant, oui. Mais voilà, c'est la seule et unique fois, j'espère la dernière, quoi. Pour toute ma carrière, c'est bon. La maminette, la mafufide. C'est tout. C'est tout, ma gueule. J'ai les mains froides, ma fille. Ça va, ma nénette. Voilà. Donc, vous m'avez dit sortie fin juin. Donc, 5 mois, quoi, au moins. Attends, ma bébé.
Et là, Emmanuel, vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire concrètement?
Je suis en train de vérifier si cette vache est gestante, c'est-à-dire si elle a un petit veau dans le ventre. Donc en pratique, on fait un examen par voie transrectale pour aller sentir l'utérus sous la main et on peut s'aider d'un échographe selon le stade de gestation. Voilà, et donc là maintenant, on a une bonne visibilité de tous les animaux. Donc l'éleveur a rentré toutes ses vaches hier, les dernières, et là on sait exactement qui va faire un petit veau, qui ne va pas faire de petit veau cette année.
Il a fallu examiner combien de vaches, là, ce matin?
On en a fait une trentaine, je pense.
Je sais pas, là, combien on a fait.
On va regarder ce qui est noté sur le cahier, mais je pense une trentaine.
Oui.
La mine, la main, t'inquiète. On dirait qu'elle est en âge. La maminette, la main. Ça va, ma mine.
Là, c'est bon, Emmanuel, on va te soucier. Ouais, c'est bon, Christophe.
Christophe Quénier, là on est sur votre exploitation agricole. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici?
Je suis installé depuis 87.
Et c'est une ferme familiale?
C'était une ferme familiale, mes parents ils étaient déjà là, mes grands-parents aussi.
Et vous faites principalement de l'élevage ou vous faites de la culture?
Non, on est plus culture. Blé, orge, colza, betterave, lin. On a une centaine de vaches à vêler.
Donc ça, ce sont des vaches qui sont destinées à aller à l'abattoir.
À la boucherie.
À la boucherie, hein.
Alors nous, on les fait vêler et on vend les mâles à 9 mois pour faire l'engraissement. Et les femelles, on les garde une grosse partie pour le renouvellement.
Donc aujourd'hui, vous avez fait appel à la vétérinaire pour faire des échographies sur vos vaches?
Oui, des échographies, et c'est pour savoir le nombre de vaches susceptibles d'être pleines.
C'est important pour vous, ça, de savoir?
Oui, c'est important parce que ça permet, comment que je peux vous expliquer, ça permet de les diriger Celles qui sont pleines, on va attendre qu'ils veillent. Et celles qui ne sont pas pleines, ça sera malheureusement l'abattoir.
Là, on est en pleine période de vêlage.
Oui.
Et dans cette période-là, vous faites souvent appel aux vétérinaires ?
Le moins possible.
Parce que ça coûte cher ?
C'est comme vous. Nous, il n'y a pas de sécu. Pas de sécu, c'est normal, il faut que tout le monde vive. Les frais vétérinaires, les médicaments, les ceci, les cela. Et puis c'est pas facile non plus pour eux.
Pour qu'on ait un ordre d'idée, ça représente combien les frais vétérinaires pour un budget d'agriculteur ? Sur une année, vous avez une idée ?
Oui, je crois que nous, on est entre 3 et 5 000 euros. Mais j'aime bien faire appel quand même à la vétérinaire. Emmanuel ou Laure, ça fait, peut-être bien 20 ans.
Ça fait 20 ans que vous la connaissez ?
Oui, peut-être pas 20 ans, mais au moins 15 ans. Alors, quand même une confiance. S'il faut euthanasier une vache, c'est pas nous qui le faisons, c'est les vétérinaires. Mais à chaque fois, on fait appel, j'aime bien avoir un avis. Il y a d'un professionnel.
C'est comme un médecin de famille pour les animaux.
Exactement.
Et c'est important pour les agriculteurs d'avoir encore des vétérinaires de campagne, parce qu'on sait qu'il y en a de moins en moins, malheureusement.
Oui, je sais bien, mais pour nous, c'est indispensable. Il faut bien avoir un professionnel en face. C'est comme si certaines régions qui n'ont plus de médecins, c'est exactement pareil.
C'est l'avantage, c'est des animaux qui sont manipulés, donc... Même s'il y en a une de plus, vous tracassez pas, ça ne gênera pas.
Il n'y en a que 10 sur votre liste.
Et alors les autres, elles sont où ?
Donc là, Emmanuel, les agriculteurs sont en train de faire rentrer les vaches dans une bétaillère.
Oui, ils sont en train de nous les trier. Enfin, là dans ce parc-là, il n'y a pas de contention, il n'y a pas de cornadie. Donc pour pouvoir faire les prises de sang, il faut quand même qu'on les serre un petit peu, parce que sinon ça s'appelle au lasso et au rodéo et je ne vais pas y arriver. Donc là, dans la bétaillère, en montant, ça va aller. C'est des animaux qui sont calmes. Et on va pouvoir faire les prises de sang.
Donc vous allez monter dans la bétaillère pour faire les prises de sang.
C'est ça.
Voilà, du calme. On se calme. Doucement.
Certaines vaches n'ont pas envie de rentrer dans la bétaillère, manifestement.
Elles ont vu une petite faille et elles sont parties dans l'autre sens. Ça, c'est normal. Il faut le temps qu'elles comprennent ce qu'on attend d'elles et puis après, ça va aller.
Il est quand même chargé. Ce sont des grosses journées, des nuits de garde.
En général, on fait un week-end de garde sur quatre et une nuit de garde sur deux pendant la semaine. Si on veut profiter un petit peu de sa famille, à un moment, il faut réussir à mettre son travail de côté. Et ce n'est pas toujours facile. Hein. On a toujours des choses qui sont en cours et qu'on aurait envie de finir avant le lendemain. Mais ça, ce n'est pas possible. Donc voilà.
Et vous êtes toujours en train de penser à votre métier ? Vous arrivez à couper de temps en temps ?
Non, on ne coupe jamais. Enfin, on peut couper une heure le temps d'une activité ou quoi, mais très vite, le métier revient à la charge et on a toujours une chose qu'on n'a pas résolue, toujours. Donc moi, je pense que mon métier vit avec moi et je vis avec lui.
Quels sont vos rapports avec les agriculteurs ?
En général, c'est des rapports cordiaux, parce que si les rapports ne sont pas cordiaux, il vaut mieux arrêter tout de suite le partenariat. Si on ne travaille pas en confiance, c'est impossible de travailler, clairement. Si à chaque fois que vous arriviez, l'éleveur est méfiant sur ce que vous allez faire, et vous êtes déjà en situation de stress avant de commencer. Donc pour moi, c'est vraiment impossible. Donc ici, on a la chance d'avoir des clients vraiment accueillants et chaleureux qui reconnaissent et nous disent souvent la chance qu'ils ont d'avoir encore des vétérinaires rural sur place. Après, comme je vous expliquais tout à l'heure, on n'a pas les mêmes rapports avec nos agriculteurs puisque c'est un rapport économique. Eux, leurs animaux constituent leur métier. Ils portent une grande attention à leurs animaux, contrairement à ce qu'on peut parfois penser. Je pense qu'ils passent le double d'heures
par rapport à ce que je fais moi dans mon métier, eux, ils ont presque jamais de jours de repos, enfin, et en tout cas, ils ont jamais l'esprit tranquille parce qu'il faut toujours avoir une surveillance sur les animaux. Mais après, ils ont aussi une contrainte économique forte avec des revenus qui ne sont pas du tout en rapport avec le temps qui passe et parfois une certaine forme de détresse. Donc on est là aussi pour parfois les remotiver, les encourager et parfois pour absorber un petit peu de cette détresse.
Aujourd'hui, vous êtes épanouie dans votre métier ?
Oui, oui, moi, à chaque fois que j'ai des stagiaires, pareil, je leur dis, vous allez voir, c'est le plus beau des métiers, mais juste, il faut vous préserver et il faut savoir... demander de l'aide et partager avec les gens qui sont autour de vous les difficultés que vous rencontrez.
Il y a en France 4 écoles publiques nationales qui forment les vétérinaires de demain. Chaque année, 640 étudiants sortent de la formation et la plupart sont des femmes. À l'école de Nantes, elle représente même les 3/4 des étudiants. Nous retrouvons au sein de cet établissement Alexandra Bergel et Yann Gallic et ils assistent à un cours un peu particulier.
Dans cette salle, une cinquantaine d'étudiants et d'étudiantes sont en train de suivre un cours de dissection. Alors, ils sont tous vêtus d'une combinaison orange, d'un grand tablier blanc avec des gants en plastique et des bottes pour se protéger. Et donc, ils travaillent sur des cadavres d'animaux. Je vois qu'il y a, par exemple, une chèvre, un chien et même un cochon.
Vous ne me dérangez pas du tout, au contraire, j'étais prévenu. Donc, Claude Guintard, je suis donc docteur vétérinaire de formation et puis je suis enseignant d'anatomie, je suis le chef de service ici en anatomie comparée.
Donc là, c'est un cours de dissection.
On est en train de faire dissection myologie, arthrologie, angio, neuro. Les animaux sont ceux qu'ils ont utilisés l'année dernière pour faire les viscères. Ils ont été congelés pendant un an, on les a décongelés et là, ils sont en train de travailler dessus.
Est-ce que vous percevez parfois un décalage chez certains de vos étudiants entre le métier dont ils ont sans doute rêvé et la réalité aussi de ce métier à laquelle il faut les confronter ?
Oui, souvent il a été idéalisé. C'est souvent l'amour de l'animal qui les intéresse, mais ils ne se rendent pas compte que vétérinaire, on n'est pas en train de câliner toute la journée un animal. On soigne que des animaux par définition malades, qui vomissent, qui ont la diarrhée, qui ne sont pas en forme, qui mordent, et ça, parfois, ça les surprend, mais ils sont tellement motivés. Bon, les 2 ans de prépa les a surmotivés. Donc, quand ils arrivent là, non. Et puis, bon, ce décalage, ils s'en aperçoivent vite en clinique. Hein. Bon, ici, ils ne s'en rendent pas compte en début de cursus, mais après, ils passeront par-dessus et puis ça sera résolu. Hein. Il n'y a pas de problème.
Et de ce que vous voyez, c'est une profession qui attire toujours beaucoup de jeunes.
Ah oui, énormément. Enfin, c'est une profession qui attire aussi parce qu'on sait qu'il y a du débouché. Hein. Tous nos étudiants, les 3/4 du temps, avant même d'être thésés, d'avoir leur thèse de doctorat vétérinaire, ont déjà des propositions d'installation. Hein.
Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, on parle d'un certain malaise au sein d'une partie de la profession et que parfois, justement, des jeunes se découragent dès les premières années et n'imaginaient pas que ce serait peut-être aussi compliqué le métier ?
Ouais, il y a différentes explications, à mon avis. C'est des nouvelles générations qui sont de plus en plus déconnectées, par exemple, du monde rural. Je vois, quand j'ai démarré, dans les années 90, pratiquement tous les étudiants avaient dans leurs proches un oncle, un grand-parent, un proche, des fois les parents, qui étaient agriculteurs. Ils avaient vu tuer un lapin, tuer une poule, etc. À l'heure actuelle, c'est fini totalement. Il y a ensuite, on a parlé de la féminisation et de l'organisation du métier de vétérinaire. C'est-à-dire que des gardes à répétition, 3-4 fois dans la semaine, les jeunes générations n'en veulent plus. Et puis, il y a une perception de l'animal qui est tout à fait sociétale, qui est nouvelle. On va dire, on voit arriver des gens qui sont véganes, par exemple, qui ne veulent pas euthanasier un animal, qui ne veulent pas aller à l'abattoir, qui ne veulent pas faire certaines choses. Et c'est l'évolution de la société actuelle, quoi. L'approche de l'animal est un peu différente. Ça change, c'est compliqué et il faut l'intégrer.
Là, tu peux le soulever un peu de temps, tu peux l'individualiser, mais il va s'arrêter sur la ligne.
On peut vous déranger 30 secondes pour vous demander ce que vous êtes en train de faire là.
Là, on nous a demandé d'aller plus profondément dans les muscles. On a plusieurs
quoi,
espèces.
Là, je vois qu'il y a une grosse patte.
C'est un postérieur de cheval.
C'est comment votre prénom ?
Julia.
Et vous avez quel âge ?
J'ai 23 ans.
C'est un rêve d'enfant de devenir vétérinaire ?
Pour tout le monde, ouais, je pense.
Que pour la plupart,
c'est ça.
Vous, par exemple, depuis que vous êtes toute petite, vous rêvez de faire ce métier ?
Ah oui, j'ai même encore des livres chez moi adaptés pour enfants de vétérinaire. Oui, c'est depuis très longtemps.
Vous avez quel âge, vous ?
Moi, 22 ans.
Et c'est comment votre prénom ?
Lauriane.
Est-ce que vous avez aussi, au cours de votre formation, est-ce que vous avez déjà eu des cours ou des modules consacrés, par exemple, à un peu la gestion administrative ? Parce que vétérinaire, ce n'est pas que soigner les animaux.
Oui, même depuis l'année dernière, on a des cours de communication, de management, de comptabilité même un peu. On va peut-être trop dans le détail pour notre année.
De tout ce qui est législation aussi et assurance. Enfin, on a quand même beaucoup de cours là-dessus et aussi de comment s'adresser aux clients, etc.
Donc on vous prépare quand même à toutes les réalités du métier.
Bien plus qu'avant, ouais, je pense. Après, le plus important, c'est quand même d'aller voir aussi en pratique. On a des stages pour ça.
J'ai bien compris que c'est pas forcément les matières que vous préférez.
Non, c'est important, mais c'est pas celle que je préfère.
Est-ce qu'on vous a déjà parlé des risques psychosociaux liés au métier ?
On parle de l'année dernière,
oui,
déjà.
Oui, déjà l'année dernière, on a eu des cours en fait là-dessus et en fait où ils nous expliquent les risques liés à notre métier et comment justement éviter de tomber là-dedans. Après, ça reste de la théorique et forcément qu'il y en a qui vont avoir un petit peu plus de mal que d'autres psychologiquement, mais oui, on nous prévient.
Pour moi, la solution, elle n'est pas encore vraiment trouvée puisque on va avoir essentiellement des cours théoriques, à mon sens, qui sont plus là pour nous dire, on a averti les vétérinaires, on est au courant que le mal-être est présent, le taux de suicide est élevé, donc... Et en fait, on a des cours théoriques qui sont assez vides, quand même. On va nous parler, par exemple, d'intelligence émotionnelle ou de fatigue compassionnelle. Du fait que, en fait, on ne doit pas intérioriser la pensée du client, la détresse du client, etc. C'est facile à dire, c'est autre chose quand on enchaîne 4 euthanasies en une matinée, quoi. Donc, quand on est confronté à la réalité, c'est pas tout à fait la même histoire.
Vous préparez à ça, vous, personnellement ?
C'est assez dur de s'y préparer. Et en fait, en parlant avec les professionnels, beaucoup nous disent qu'en commençant dans la pratique, le principal problème, c'est pas tant les connaissances théoriques, c'est de se confronter au public, de se confronter aux clients et de prendre l'habitude de gérer les émotions du client, etc. Et beaucoup disent qu'en fait, à la fin, on arrive à prendre du recul, mais que ça vient qu'avec l'expérience, quoi. Donc, entre guillemets, la détresse émotionnelle est un petit peu inévitable pour réussir à prendre le recul.
Je suis Laurence de Flessel, je suis directrice générale d'Oniris. Donc Oniris, c'est une des 4 écoles nationales vétérinaires françaises, donc école publique. Et nous avons également un campus qui forme des ingénieurs pour les filières agroalimentaires.
Ce métier continue à attirer les jeunes.
Oui, c'est un métier qui fait rêver. C'est le top 3 des métiers que rêvent de faire les enfants. Donc nous avons eu entre 4000 et 6000 dossiers pour les 2 premières années par an pour 160 places ouvertes. Donc là, nous allons augmenter le nombre de places. Ça vous donne une idée du ratio. C'est un métier qui peut être, comme tout métier qui attire, qui peut être fantasmé. Il faut pas faire vétérinaire parce qu'on aime les animaux. Aimer les animaux, c'est pas suffisant. Il faut avant tout aimer le contact avec les propriétaires des animaux. Il faut avoir du recul, il faut avoir du sang-froid, il faut gérer des urgences, il faut savoir appréhender l'euthanasie des animaux. Et ça, c'est vraiment des notions qui sont pas faciles. Et je pense que c'est vraiment important, voilà, que nos étudiants se soient posés ces questions.
Justement, est-ce que vous préparez vos étudiants à toutes les facettes de ce métier, pas seulement soigner les animaux, vous le disiez, mais aussi savoir gérer une clinique vétérinaire, savoir être un employeur, un petit chef d'entreprise ?
Oui, c'est un métier qui est très complexe. Donc il faut à la fois une très bonne formation médicale, mais il faut aussi ces compétences de management, de travail en équipe. Nous avons par exemple une salle avec des possibilités d'observation et où nous faisons interagir nos étudiants avec des acteurs, par exemple pour gérer un client difficile, pour gérer la réaction suite à une euthanasie. Il faut des compétences psychologiques aussi. Moi, je suis vétérinaire. J'ai suivi aussi la formation vétérinaire il y a presque 30 ans. Ils sont beaucoup mieux formés. Enfin, ils n'ont jamais été aussi bien formés. On les forme très, très bien. C'est un métier très enrichissant, mais un métier complexe. Et il faut à la fois être médecin, chirurgien, enfin surtout pour ceux qui choisissent vétérinaire généraliste, c'est quand même la majorité d'entre eux. Il faut savoir communiquer avec les clients, il faut être psychologue, gestionnaire, enfin il faut savoir encadrer du personnel. Mais c'est aussi pour ça que c'est un beau métier.
Vétérinaire, le grand malaise d'un métier qui fait rêver, c'était un reportage de Yann Gallic, avec une prise de son assurée par Alexandra Bergel, Lucien Lefebvre et Georges Thau, réalisation Jérôme Chélus, assisté de Martine Messonnier, mixage Cédric Chatelus. Cette émission est d'ores et déjà disponible à la réécoute sur le site de France Inter.